Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge les intentions, pénètre jusqu'au fond de l'âme, dans les pensées du cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vie. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela le maître dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allaient, et le maître sortit de nouveau vers midi. Et aussi vers 3 heures, et il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, le maître en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, pourquoi êtes-vous resté là toute la journée sans rien faire? Et ils lui répondirent, mais c'est parce que personne ne nous a embauchés. Alors le maître leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, distribue le salaire, commence par les derniers, finis par les premiers. Et ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est mauvais parce que moi je suis bonté? C'est de cette façon que les derniers seront premiers, et que les premiers seront dernière, clamant la parole de Dieu. J'adore, Seigneur, ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Comme l'onde est sur la verdure qui parcourt de la terre tout entière, à recours de son manteau, pénètre en bénédiction toute chair assoiffée de pureté virginale, sainte, divine, éternelle, toute pure, qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux les portes de la Jérusalem d'en haut, libérer toute entrave et laver toute faute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia. 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 Vous devez vous demander ce que ça veut dire, hein, ce roi-là, qui doit remplacer Gédéon. C'est formidable, hein, ces lectures. Hein. Alors, l'olivier dit non, le figuier dit non, la vigne dit non. Donc, j'ai mes dévotions, vous comprenez, alors. J'ai mes apparitions, vous comprenez. Saint-Michel Archange qui m'apparaît. Ouais, donc, c'est non. Je ne vais pas renoncer à mes apparitions, quand même. Ce ne serait pas respectueux pour le Saint-Michel. Ouais, on va pas renoncer. Voilà. C'est beau. Et puis, mais du coup, c'est le buisson d'épines. C'est le buisson d'épines, vous êtes sûr de vous, hein? C'est beau, ça, je trouve. J'aime bien. C'est bien. Ah, alors là, vous avez la... C'est quoi l'olivier? C'est quoi l'olivier qui devient le roi? C'est Jésus, hein? À chaque fois, c'est Jésus, l'olivier. C'est Jésus, le figuier, c'est Jésus, la vigne, c'est Jésus, l'humilité, couronnement d'épines, le roi, le véritable roi, le roi caché, celui qui dirige tout. C'est l'humilité. Les quatre premières demeures, vous voyez, celles qui nous préparent à la cinquième, c'est-à-dire à l'avertissement, l'ouverture du cinquième sceau. C'est vrai, au début... C'est l'onction, c'est Jésus qui donne dans son onction de la myrrhe dégoulinante sur le sommet de la croix. C'est comme un faisceau de myrrhe, savoureux, déréférent, liquéfiant. C'est ça, c'est normal, la première demeure, il faut bien qu'on se détache du péché mortel. Mais c'est pas Jésus qui nous détache du péché mortel qui règne, Jésus. C'est Jésus qui aime le Père. Et la deuxième demeure, vous savez, la figue, c'est le figuier, c'est quoi? C'est Jésus. C'est Jésus dans son peuple. C'est la deuxième demeure dans l'oraison, vous voyez, quelquefois c'est le figuier. Il y a des transfigurations intimes, profondes, surnaturelles, célestes, qui nous saisissent, qui nous transfigurent. Il n'y a que de la lumière, il n'y a que de la lumière, il n'y a que de la lumière. On est comme transporté dans la lumière, partout, il y a de la lumière, né de la lumière. C'est le fiquier, ça. Et quand on prie quelque part, vous voyez, déjà, en Israël, c'est ça. Les Hokmet Talmud, les docteurs de la loi, c'est un nom qu'on donnait à ceux qui avaient un tas de degré d'intimité avec le Messie tellement grande, que quand ils communiquaient la doctrine infaillible des nazis d'Israël, ils étaient transfigurés comme l'ampoule. Et c'était courant. Quand même, on ne va pas renoncer à cette grâce messianique. Mais la deuxième demeure, vous comprenez, c'est celle qui nous détache de nous-mêmes. C'est vrai. C'est la lumière, là, quand on est envahi par la présence du Messie, la présence messianique, la présence du cœur de Jésus, rempli d'onction. Lorsque pour nous, il n'y a plus il n'y a plus cette espèce de violence, de déception, d'amertume, il n'y a plus que la vie, ça donne son fruit, ça y est, j'ai atteint le terme, je suis avec Jésus, Jésus est en moi et moi en lui. C'est le figuier, ça. Mais ça va tellement loin que ça va jusqu'au fond de mon corps, jusqu'à la racine primordiale de mon corps spirituel, de mon corps primordial, de mon corps originel. Il n'y a plus aucun problème avec la pureté, avec la chasteté, avec la virginité, avec la vie contemplative. Est-ce que c'est ça? Alors celui qui dit ça, il dit non, ce n'est pas ça le roi. Je ne serai pas votre roi, je ne veux pas renoncer à ça. En fait, c'est tous les âges, hein, quelque part aussi, on peut reconnaître là-dedans les âges dans l'Apocalypse, hein. Les grandes maturations de la présence de Jésus à l'intérieur de son peuple, mais aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Dès lors qu'on est unis au peuple de Dieu tout entier, on fait un seul corps mystiquement, comme homme vivant Jésus mystiquement. Après c'est la vigne, alors la vigne. Ah la vigne, c'est la vigne, c'est le vin. C'est l'eau échangée en vin, c'est quand l'oraison fait que ça y est, hein. Jésus est là, et son sang qui circule dans nos veines, il y a un enivrement. On fait partie de l'Église, de la Jérusalem, de la terre, on fait partie de la Jérusalem du ciel, on fait partie de la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem spirituelle, la Jérusalem angélique. Ah, c'est tous ces nœuds entre eux, on passe par, bien sûr, la passion glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, l'Église, c'est ça, c'est la croix glorieuse qui traverse tout jusqu'à la fin. La vigne. On le voit bien, la vigne. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté, c'est l'amour. Alors, on s'adresse au buisson. C'est-à-dire, on voit bien dans l'église de Sainte, par exemple, on ne renonce pas à ces fortifications, à ces magnifiques. La vigne d'entourer, quoi. La vigne protégée, la vigne. Voilà, on est obligé d'aller chercher au carrefour les boiteux, les misérables, les brigands, etc. On leur met une aube blanche. Les misérables et les pas nombreux. C'est cela qu'on amène en dernier lieu, vous voyez, c'est ça, on va aller chercher à la fin. Cette église, quelque part, là, on l'a. Là, la royauté du Christ, le couronnement d'épines, c'est quelque chose, vous savez. Ce buisson d'épines que Moïse a vu. C'est Jésus broyé d'amour pour son Père. Alors lui, si on est dans Jésus broyé d'amour pour son Père, et qu'on est plus que le peuple messianique, on est plus que la transfiguration, on est plus quelque part que la libération de toute faute, quelle qu'elle soit, voilà pour la troisième demeure de l'Église. L'Église nous met en dehors de tout péché, même véniel, hein, dans une union parfaite avec Jésus, dans une union parfaite avec le Père, dans une union parfaite avec le Saint-Esprit, dans une union parfaite avec Marie, si je puis dire. Eh bien, non, je ne veux pas renoncer à ça. C'est ce que dit Saint Jean de la Croix, la troisième demeure, c'est la demeure des dévotions. Mais les dévotions, les hindous, ils ont des dévotions. Et il faut peut-être monter un petit peu au-dessus du niveau de la mer. Et au-dessus du niveau de la mer, il y a le roi. Le roi, c'est à ça qu'on le reconnaîtra, si je puis dire, entre nous soit dit. C'est à ça qu'on le reconnaît, c'est son humilité substantielle. Il est sagesse, il est humilité et justice de Dieu le Père incarné. Quelqu'un qui est l'incarnation de l'effacement du Père pour être ajusté à tous et à chacun, à lui-même et à son éternité. Et c'est dans la sagesse de la croix, l'union hypostatique déchirée de Jésus, la transverbération pour la transglorification du Père, hein, dans la sponsalité agréée, c'est ça le roi. Bon, je suppose que vous aviez tous entendu ça. C'est sûr, les ouvriers de la dernière heure, ce qui compte, c'est d'être dans une disponibilité, une humilité pour que Dieu nous prenne, et on y va. Et c'est à la fin, et on y va. Et c'est à la fin, l'amour, c'est le royaume d'amour, c'est le repas d'amour. C'est Jésus amour. Alors si on vit en fait de ces quatre grâces, à ce moment-là le sacerdoce ouvre l'air du cinquième sceau. Le sacerdoce prophétique. Pour ça qu'il y a Élie et Enoch, les deux témoins. Ouvre le temps. Et c'est pour ça qu'il y a cette parole qui est donnée par celui qui dit, voilà, prenez bien garde, parce qu'un feu va sortir de moi. Si vous me choisissez comme roi, c'est un feu d'amour. C'est une Pentecôte d'amour, mais qui est à, non pas notre dimension, non pas la dimension de l'Église, non pas la dimension de la transfiguration messianique, pas à la dimension de la victoire sur le péché, non. C'est quelque chose qui va juger Satan lui-même. Parce que Satan ne supportera pas que dans l'univers, il y ait ce feu-là. Alors, il va s'écarter. Il va se réfugier dans l'Aquilon. Dans son propre vide. Et nous assistons à ça. Déjà, dans l'oraison. Et la prière, le combat spirituel, le combat de la guerre eschatologique finale, déclaré, mis en place, ouvert par le Saint-Père sur la terre. C'est beau de savoir ça, que la vigne se retire, voyez, au jour où le pape Benoît XVI s'est retiré. Et même François, il se retire, il va sur la périphérie. Et le pape se retire, le pape Jean-Paul II s'est retiré, il va dans le Saint des Saints de la paternité créatrice de Dieu pour célébrer la messe jusqu'au jour du feu qui doit sortir du buisson. À un moment où l'Église s'efface pour faire apparaître la Jérusalem spirituelle, c'est-à-dire la Jérusalem spirituelle véritable, la Jérusalem du cinquième sceau, la Jérusalem des noces, la Jérusalem sponsale, la Jérusalem incarnée, la Jérusalem frétillante de toute la matière devenue lumière et vie. À la fin, le Maître, eh bien, il donne un denier à tout le monde. C'est-à-dire, il donne à chacun le germe de la résurrection. À chacun, il donne la rédemption, la purification, la sanctification, la divinisation et la résurrection. Chacun, pareil. Et aussi, s'ils veulent la lumière de gloire, à chacun. Mais ce qui compte, c'est la persévérance finale. C'est pas ce que tu as reçu dans ta vie, c'est pas ce que tu reçois encore. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à la fin. Ce qui compte, c'est les fins dernières. compte dans tout le pèlerinage de la foi, de l'espérance, du sacrement, etc. Ce sont les fins dernières. C'est ce que disait Notre-Dame de la Salle, qui disait, les apôtres des derniers temps prêcheront les fins dernières. Ils prêcheront le jugement particulier. Ils prêcheront le purgatoire, l'enfer. Ils prêcheront le ciel de la vision béatifique et toutes ses demeures et dévorances. Ils prêcheront la fin du monde, ils prêcheront la fin des temps, ils prêcheront la parousie. Ils prêcheront les sceaux de l'Apocalypse. Voilà les apôtres des derniers temps. Ils prêcheront de manière invisible, ils prêcheront de manière mystique, ils prêcheront de manière virginale, ils prêcheront au ciel du monde angélique, ils prêcheront au ciel du monde angélique pur. Ils prêcheront au monde de la mort, ils prêcheront au monde de l'innocence. Notre-Dame de la Salette, c'est voilà, les apôtres des temps. Et leur proclamation dans le verbe transfigurant, transverbérant, pardon, amènera Jésus à être ce qu'il est dans le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, à la rencontre de cette Jérusalem spirituelle-là, dégoulinante de ce feu d'amour, de son humilité eucharistique accomplie. Et cette rencontre prodigieuse produira le baiser du véritable amour et sera la nourriture. Ce sera la nourriture intérieure de ceux qui recevront ce feu. Et ce sont des choses, des réalités divines, des réalités incarnées, des réalités de chair, de sang aussi, hein. Qui sont palpables. Il suffit de s'engloutir en elles. Hein, quand Marie était là, quand Saint Jean était là pendant 40 ans, 60 ans au total, c'est impressionnant quand même, Saint Jean. Saint Jean m'impressionne de plus en plus, moi. C'est pour ça, quelquefois, puisque l'Église se retire, les successeurs des apôtres se retirent aussi. Il faut qu'ils fassent leur dernier coup, là, avec le Saint-Père, avec Poutine, je veux dire, avec Kirill. Il faut qu'ils donnent leur dernier coup. Hein. Il va y avoir le dernier coup donné par les successeurs des apôtres. Le dernier coup. Allez hop. Là, c'est en ce moment que ça se joue. Hein. Ça se joue à Moscou en ce moment-là. On a 3 jours et demi. C'est merveilleux de savoir que c'est pendant ce temps-là qu'on est là, ici. Pour que ça se réalise. Le dernier coup des successeurs, de tous les successeurs des 12 apôtres. C'est fou, quoi. Ils vont donner, et puis ils vont se retirer, forcément. Alors, il faut bien qu'on ait quand même... Moi, je dépends quand même d'un évêque. Il faut quand même dépendre d'un évêque. Mais s'il se retire... Alors, il se retire de diverses manières. Il y a les 2/3 qui se retirent parce qu'ils sont francs-maçons, donc ils ne sont plus évêques. Et il y en a 1/3 qui se retire... Parce que c'est le 5e saut de l'Apocalypse. Il s'efface. Il s'efface devant qui? Devant l'évêque, l'apôtre, celui que Jésus a montré comme étant l'évêque de la fin du monde. C'est lui, c'est son sacerdoce éternel, victimal d'amour, confondu à celui de Melchisédek, c'est-à-dire sans limite et sans fin, en gloire. C'est lui l'évêque. Et il est là. Moi, j'aime bien, de temps en temps, je ne le dis pas de manière audible. Mais quand je célèbre la messe, je dis le pape, tout ça, enfin, on est l'évêque de ce lieu. Mais en fait, je dis intérieurement, je peux vous le dire, c'est une confidence. Mon évêque, c'est Saint Jean. Et il est là, il n'est pas, il est vivant, avec son corps, son âme. Ça. Vous savez quand même que Saint Jean n'est pas mort. Son tombeau est vide. C'est comme le tombeau de Joseph. Le tombeau de Joseph est vide. C'est un truc que j'aime pas beaucoup, moi, cette histoire du tombeau vide de Saint-Joseph. J'avoue que je suis triste. Je suis triste de tellement de choses, vous savez. Le méchant a commencé. Hein. Je me rappelle la première fois que j'ai été à Nazareth. il y avait ce tombeau de Saint Joseph à Nazareth. Et depuis 20 siècles, enfin depuis, oui, 15, 19 siècles, ils appellent ça le tombeau vide, le tombeau du juste. Le tombeau du juste. Et on voyait ce tombeau, on rentrait à l'entrée comme ça. Il y avait une espèce de descente d'escalier. C'était comme de la craie blanche, mais solide. C'était creusé, on descendait. Là-bas, on pouvait deviner, on n'a pas le droit, mais on pouvait, là-bas, 20, 30 mètres en dessous, là. Il y avait, c'était blanc, blanc, mais un blanc solide. Il y avait ces tombeaux de juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont massacré. C'est une légende. Donc ils l'ont massacré, il n'existe plus. Ils ont fait des fouilles archéologiques. Il n'y a plus de tombeau de juste. Le tombeau est vide, tout le monde sait, tous les chrétiens savent à Nazareth que le tombeau de juste, c'est Joseph, d'ailleurs c'est dans l'évangile. Il se fait un tremblement de terre gigantesque. Méga séismos, hein. Et le tombeau du juste sourit, marqué dans l'évangile. Donc, à Itaperanga, Saint-Joseph vient rappeler, là, ces années-ci, là, depuis 1980, depuis 1996, il vient rappeler, Saint-Joseph vient apparaître en disant, voilà, c'est le feu qui sort de mon cœur, qui va brûler le monde. Parce qu'il s'alimente, du feu d'amour de Marie, du feu d'amour de Jésus. Enfant de Jésus, entendrez. Et c'est ce feu qui va brûler le monde, qui va condamner le monde, l'esprit du monde va condamner. Le péché sera condamné par ça, le feu de Saint-Joseph, et Satan sera condamné. C'est les trois jugements du feu qui sortent de l'humilité royale communiquée là. Eh bien, Saint-Jean, lui, donc que Joseph soit ressuscité, on le sait très bien, puisque les docteurs de l'Église l'ont dit, Saint-François de Sales, par exemple. Et puis moi, ça me suffit. L'enseignement du Saint-Père sur la responsabilité me suffit. Il y a une nécessité entre l'Assomption de Marie, la résurrection de Jésus et la résurrection de Joseph. Un lien de nécessité théologique. Sinon, toute la Bible doit être mise à la poubelle. À cause de la responsabilité. À cause de la responsabilité. Vous verrez, elle est apparente, elle ne plaisante pas, Saint-Joseph, sur la responsabilité. On touche pas à la responsabilité. C'est normal. Eh bien, Saint Jean aussi, il a dit à ses disciples, allez dire l'office de vêpres, je me rappelle, c'est là-bas à Éphèse. Alors même si Maria Valtorta dit que c'est pas à Éphèse, ça, je veux dire, l'Église a authentifié Anne Katzenemrick. L'Église n'a pas authentifié Maria Valtorta. D'accord ? Aussi beau, poétique et romantique que ce Maria Valtorta, l'Église ne l'a pas authentifié. Voilà. Vous n'avez qu'à regarder ce que dit Maria Valtorta sur la dormition, l'Assomption. Vous allez voir, vous serez convaincu. Mais non. Elle était seule avec Saint-Jean, les apôtres n'étaient pas là, c'était à Jérusalem, enfin, que des sonneries. Un truc imbuvable. Imbuvable. Honteux. Alors, vous voyez, cette espèce de... Comment ça? L'Apocalypse n'existe pas? Qu'est-ce que c'est? 60 ans ne sont pour rien. 66 en fait, 66 ans. Saint-Jean, quand même. À Éphèse, moi je me rappelle, j'étais là, quand il y a une maquette, on voit une maquette, comment c'était cette basilique, une des toutes premières basiliques de la chrétienté. Basilique Saint-Jean, pour la Mère de Dieu, Éphèse. Oh, c'est une splendeur, d'une finesse, un espèce de miracle. Et puis, il y a au milieu, là, il y a un endroit, alors Saint-Jean a dit, voilà, je vais m'allonger ici, allait dire le fils de Vêpre, quand ils sont revenus, le corps de Saint-Jean n'était plus là. Alors, il est où? Allez demander à Marie, allez voir Tata. On ne se nourrit pas des révélations privées. On ne se nourrit pas. Les révélations privées ne sont pas une nourriture pour la foi. C'est l'enseignement formel et infaillible de l'Église. Celui qui se nourrit de révélations privées est perdu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en nourrir pour se réconforter un peu. Eh oui, se faire du bien, ça fait du bien. Comme disait le Père Emmanuel, si ça fait du bien à l'âme, lisez-le. Ça fait du bien. Ça fait de l'olivier, ça fait de l'huile. C'est de l'huile, voilà. C'est de l'huile de guérison. Voilà. On a moins envie de se vautrer dans le péché mortel. Et quand saint Thomas dit, ça peut éclairer la prudence humaine. Ça peut aider pour les vertus humaines. Hein, les révélations privées. On ne les méprise pas, attention. Mais on sait qu'elles peuvent être une très grosse tromperie pour ceux qui en font une nourriture. Je vous le dis au passage, parce que vous savez, personne n'osera vous le dire. Alors. La foi, c'est autre chose. La vie surnaturelle, l'union divine, incréée, surnaturelle, divine. La dernière fois, j'ai eu comme ça. Quelqu'un m'a téléphoné en disant, et apparition de Saint-Michel Archange. Je vous l'ai dit hier, je crois. Là, 5, 6, 7 fois il m'est apparu là. Il dit, c'est l'heure, c'est mon heure maintenant. C'est mon heure. Je dois intervenir. Avec toutes les puissances, toutes les puissances de tous les sacrements, je dois intervenir dans la vie. Ouvrez les portes que je puisse pénétrer, rentrer et faire le travail de Dieu. Sur la terre d'aujourd'hui, le sablier est terminé, il n'y a plus rien. C'est l'heure. Saint-Michel Archange, qui disait ça, cette petite. Je veux bien, mais c'est pas ma nourriture, vous comprenez. Je l'aime bien pourtant, je l'aime bien. Et je le crois, je le sais, j'ai pas besoin qu'elle m'ait téléphoné pour le savoir quand même. Puisque je fais oraison. Mais Saint-Michel, quand je lui ai dit, c'est maintenant, c'est l'heure, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne dans l'Église, dans les successeurs des apôtres. Il n'y a plus personne. Qui croit. À la vie divine, purement divine, à la vie surnaturelle, théologale, purement divine. C'est tout humain. C'est intéressant par rapport aux révélations privées, ça. Les révélations privées nourrissent des vertus humaines, notamment la prudence. Une certaine prudence pratique à avoir par rapport à des tentations évidentes. Ça nourrit notre prudence humaine. Et la prudence, c'est quand même le nœud d'onction de douceur dans les rouages de toutes nos vertus, de notre qualité du cœur. C'est humain, ça. C'est les cathos les mieux, les meilleurs cathos, les meilleurs. Ils se nourrissent principalement de révélations. Elles viennent de Dieu, on ne les méprise pas, mais elles sont pour l'humain, elles sont pour l'olivier, pour la figue.
et pour la vigne. Mais pas pour le feu divin qui brûle tout et qui met en place le corps spirituel embrasé, incorruptible, invincible, qui émane de la fécondité de l'Esprit Saint qui actue la responsabilité éternelle, fondue dans l'aspiration agréée passive du Saint-Esprit. La Jérusalem glorieuse, le Marie, Joseph et Jésus, qui écarte et déchire en eux toutes les fécondités pour faire descendre en nous ce feu dans la terre primordiale qui est la nôtre, dans l'Église primordiale qui est nous, dans le temps qui s'ouvre. Plus personne, plus aucun prêtre, aucun évêque, disait-il à cette petite, ne croit, n'enseigne, ne donne le chemin de la transformation totalement divine de la vie humaine. De la transformation totalement surnaturelle de la vie humaine. De la transformation totalement agréée dans le créé de la vie humaine. Et pour ça, il faut se nourrir, vous voyez ça. Des trois sceaux de l'Apocalypse. Les trois amours du Père dans Saint-Joseph, du Saint-Esprit dans l'Immaculée, glorifié. Et de Jésus dans le Sacré-Cœur, sont des amours déchirants d'amour, de feu agréé. Et c'est pour nous, ça nous est donné dans l'oraison, et c'est nous qui faisons l'unité d'amour entre ce feu divin du Père dans Saint-Joseph, du Saint-Esprit dans Marie-Reine, et du Sacré-Cœur de Jésus. Hein. Les uns étant source chacun l'un de l'autre. C'est ça qui est impressionnant. Et pour ça, il faut être contemplatif, il faut regarder ça, le voir, s'engloutir, et disparaître, voler dedans, disparaître, s'engloutir merveilleusement, et laisser le feu qui est intérieur au Saint-Joseph, c'est à stigmatiser. Hein. Avant la naissance, il était stigmatisé. Il le dit d'ailleurs, il est appelé en cœur, je suis stigmatisé. Dans mon cœur est stigmatisé. Il y a toute la compassion de Marie qui a marqué dans des plaies très profondes, physiques, mon cœur, avant ma naissance. Et la croix aussi de Jésus, l'union hypostatique déchirée, qui a marqué en stigmate son cœur. Normalement, il n'aurait pas pu survivre humainement. C'est uniquement parce que la substance essentielle de la nature divine de Dieu le Père spirait à l'intérieur de son cœur d'amour qu'il a pu survivre et naître. Et pendant 19 ans, il a vécu ça jusqu'à ce que ces myriades et ces myriades de cellules aboutissent en lui, au mariage spirituel totalement divinisé. Et c'est lui le Père, Dieu le Père, et lui assumé en Dieu le Père, qui sont l'origine du Verbe de Dieu, dans la chair et de l'Immaculée Conception, dans sa compassion. C'est pour ça qu'à Iparanga, on les voit tous les deux revenir à leur source, qui est le cœur de Saint-Joseph, le cœur du Père. Le buisson, c'est ça. Il faut le voir, il faut le comprendre, c'est pas compliqué. Un gosse de 4 ans comprendra très 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 bien, pas besoin d'avoir fait ça du tout Saint Thomas d'Aquin quand même. Oh. C'est pas la peine. Il faut juste être chaste, pur, avoir ce désir d'une chasteté absolue, même en pensée. Dans nos actes, dans nos pensées, dans tous nos mouvements. Sinon, c'est la perdition éternelle. Hein. Là, je les plains, hein, les gens qui sont en perdition éternelle. La réprobation éternelle, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Ah non, non, moi, j'en ai besoin. Ah, t'en as besoin. Tu en as besoin. Ah moi, si j'ai pas ma petite poudre d'Asmodée tous les jours, Ah oui, vraiment. Alors à ce moment-là, il aurait mieux valu, comme dit Jésus, que tu ne naisses pas. Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né, celui-là. Il faut absolument enseigner l'enfer, parce que l'enfer existe. Et c'est pas juste un ou deux qui y sont, attention, c'est des myriades. Ce que je ne sais pas dire, c'est si c'est un tiers ou deux tiers, je sais pas. Mais c'est beaucoup, hein. Et c'est l'amour de Dieu. Tu peux pas empêcher l'amour de Dieu de t'envahir. Il va irrésistiblement poussé par l'amour. Avec une délicatesse, tu peux pas savoir. À l'intérieur de l'âme, de ces réprouvés. Mais ces réprouvés, dès la terre déjà, ils disent oui, mais il me faut ma poudre d'Asmodée, moi. Alors, il y a un refoulement, vous voyez. Il me faut ma poudre d'Asmodée. Mais l'amour, il vient quand même. Mais il est fait pour aller dans la substance de l'âme, pour embrasser la glorification du Père et du Fils, dans l'aspiration à créer de Dieu, et la création de tous les univers incréés éternels de Dieu, d'amour, de lumière, de vie. Et si c'est refoulé, mais ce feu, il a pour but de brûler la substance des choses. L'énergie protée, l'ousia, la transsubstantiation, la transverbération de toutes choses. De brûler tout ça dans l'amour. C'est un repas d'amour. Et si c'est refoulé, alors c'est refoulé dans les parties végétatives, les parties sensitives de l'âme. Ça fait comme, oui, vous avez compris, c'est le père Amin Jean qui expliquait ça à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça fait comme un chalumeau, vous savez, ça refoule. Tu repousses, mais dans les parties sensitives, je m'excuse, et dans les parties végétatives de l'âme, ça brûle, hein. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas renoncer à son amour. C'est pour ça que l'enfer existe vraiment. Et c'est un vrai feu. Et c'est éternel. Alors laisse tomber ta poudre. Ça, c'est, vous voyez, c'est l'olivier qui dit ça. Renoncer au péché mort. Renoncer au péché. Pour qu'il y ait quand même l'onction de la grâce. Qui au moins la grâce sanctifiante. C'est pas tout, évidemment. Parce qu'il faut aller jusqu'au cinquième saut de l'Apocalypse. Il faut comme ça, comme Saint-Joseph, des sources, de la Pentecôte, du Paraclet, dans la nature humaine tout entière et dans la substance incréée de Dieu le Père. Voilà notre vocation. C'est pas une petite vocation, c'est pas rien. C'est pour ça que j'aime bien là, cette lecture qu'on a faite. Et c'est marrant, hein. Si c'est pas ça, eh bien c'est des revendications. Ah ben je revendique, ben. On le voit dans l'évangile, revendication. Revendique. Alors Jésus dit à l'Antichrist et à tous ceux qui sont avec lui, un tiers, hein, et dit, retire-toi, va-t'en. La résurrection, tu l'as. Les trésors de mon amour pour l'éternité, tu l'as. L'atrocité, invincible et insupportable, des peines de la damnation éternelle. Je veux dire, dans ce qui est le plus en plus supportable qui soit, de s'en retirer, parce que c'est moi qui les ai subis pour te les retirer, puisque tu as choisi l'enfer. Je te retire ce qu'il y a de plus insupportable. Tu as tout. Alors va-t'en. Ça ne veut pas dire qu'il ne brûle pas, mais il brûle. S'il n'y a pas que le feu du Tartare, hein, attention. Hein. C'est une. Il faut faudrait faire la description extraordinaire théologique, hein, théologale, surnaturelle, c'est surnaturel, ce phénomène de la réprobation éternelle de l'enfer, c'est sans arrêt, ça s'arrêtera jamais. Au ciel, c'est éternel, voyez. Donc il n'y a plus de temps. Tandis qu'en enfer, ce sera du temps continuellement. Ça ne s'arrêtera jamais. Au ciel, on rentre dans l'instant éternel et dans la création. De la création nouvelle, donc on ne s'embêtera pas parce que c'est fou, quoi, ce qui va se passer. Dans le feu de l'amour, il y a une création, il y a une splendeur, il y a une magnificence. Il y a une fulgurance, il y a une ascension continuellement nouvelle, dans une fulgurance nouvelle. Et à chaque fois, chacun de ceux qui sont là, et dans chacune des communions les uns avec les autres, encore toujours nouvelle. Et éternellement, c'est dans l'instant éternel, vous voyez, quelque chose, tandis que dans l'enfer, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas le rassemblement de tous les instants, vous voyez. Ça continue sans arrêt. C'est le temps tic-tac. Des myriades d'années. Et ça ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est la foi catholique, ça. C'est la foi de l'Église. C'est la foi de Jésus, c'est Jésus qui l'a enseigné. Et Notre-Dame de la Salette a dit, enseignez ça! Les chrétiens ont droit à la vérité. Le péché est une abomination. Et d'abord en pensée. Les apôtres des derniers temps, c'est pas mal. On prêcheront les fins dernières. Et moi, j'aime bien quand on prêche aussi le purgatoire, comme c'est beau le purgatoire. C'est... Oh. C'est l'amour de Jésus transformé en lumière pour que justement ça ne brûle pas trop. Transformé en lumière et en parfum délicieux. Mais c'est un parfum... C'est comme une onction guérissante. Elle guérit de toutes les manières. Ça dure longtemps, quelquefois. Il y a quelques-uns, quand même, de nos ancêtres, nos grands-parents et arrière-grands-parents, qui, ça fait quand même, je sais pas, 800 ans qu'ils sont là, au purgatoire. Il se passe quoi au purgatoire? Ce qui fait souffrir le plus au purgatoire? Ce n'est pas les péchés qu'on a faits, évidemment que non. Ce qui se fait souffrir terriblement au purgatoire, c'est qu'on ne peut pas aller au ciel. Pas encore. Alors on est atrocement rongé par le désir. On est broyé. Mais cette onction-là nous active, centuple. Des myriades de fois notre désir d'aller au ciel. Et ce désir doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Puisqu'on ne peut plus se plonger dans le sang de Jésus pour que cet désir soit le désir de Jésus à la place de nous et remplace tous nos manques de désir. Alors du coup, c'est au purgatoire qu'on doit le faire. Mais cette souffrance de l'espérance, cette souffrance de la foi au purgatoire, cette souffrance de l'amour brûlant, surnaturel, divin, de la charité au purgatoire est tellement grande. C'est une souffrance terrible, c'est une souffrance surnaturelle, c'est une souffrance transverbérante, c'est une souffrance, c'est une ardeur, c'est une souffrance d'amour et de lumière. Parce qu'on est à l'intérieur de Jésus quand on est au purgatoire, il ne faut jamais l'oublier. Et on a ce réconfort de savoir, de constater qu'il y a cet amour en nous, totalement divin, mais qui n'a pas pris encore toute son ampleur. Et il faudrait écrire chaque respiration, chaque mouvement de nous quand on est au purgatoire. Quand on est dans la vie purgative, quand on est dans la vie illuminative, divine, parfaite, accomplie, en pleine situation du purgatoire, quand on est dans la vie d'union d'amour, parfaite, accomplie, en pleine situation du purgatoire. Et ceci au rythme de la prière de l'Église de la Terre, puisque nous ne pouvons plus prier de manière méritoire, en dépendance alors, en dépendance de l'Église de la Jérusalem de la fin. Parce que la fin d'un être humain est liée substantiellement à la fin du parcours de l'humanité dans la Jérusalem spirituelle des trois derniers sauts d'Apocalypse. Et donc il faut qu'il y ait l'aller-retour entre les deux et au purgatoire. Et l'âme du purgatoire le sait. Elle le sait, elle le vit. Elle attend une goutte d'eau venant de l'Eucharistie. Elle attend une goutte d'eau, comme si c'était le ciel tout entier qui venait à lui. Voilà, et donc quelque part, c'est vrai, il la reçoit cette eau. Il y a quelqu'un qui me disait, voilà, moi, je dis aux âmes du purgatoire, voilà, tous les flics qui sont au purgatoire et qui sont amusés à passer au grill, là, les conducteurs automobiles, là. Allez, je vais faire une prière pour vous. Parce que là, je vois au péage, là, ils vont m'arrêter, j'ai pas mes papiers, rien, j'ai pas. Alors, ils prennent les âmes du purgatoire, au péage, les flics disent, par ici, par ici. Ils prennent les âmes du purgatoire, les flics disent, allez, partez. Il n'avait pas fini de s'arrêter, partez. Il dit, ah, au moins, c'est commode. Les âmes du purgatoire agissent immédiatement. Donne le truc du purgatoire, c'est formidable, le purgatoire. Il y a une proximité avec nous. Extraordinaire. Et vous voyez, dans les cédules qu'on a fait pour l'agapé pneumato-surnaturel, hein, on a fait quand même 4 cédules. Hein, dans le 4 ou 5 sur le purgatoire. Parce qu'il faut vivre ce purgatoire. Il faut savoir exactement ce qui se passe au purgatoire. Il faut savoir exactement les sentiments, les mouvement intérieur qui se passe dans la vie purgative du purgatoire, dans la vie illuminative du purgatoire. Dans c'est plus que des souffrances, vous comprenez, c'est une rédemption du monde entier qui se passe dans notre âme. Dans quelque chose qui dévaste tout. Et on est dévasté, on est tourmenté par l'amour, le désir d'amour. Et il y a le dernier voile. Avant, il doit se déchirer avant la rentrée dans la vision béatifique. Et il n'est toujours pas déchiré. On est là. On est là, assoiffé. Altéré. Gorgé de lumière, mais pas encore. Assez. Vous voyez. Pour savoir ces sentiments, on les connaît parfaitement. On sait exactement dans les moindres détails. Quelles sont ces émotions, quels sont ces mouvements divins, surnaturels, théologales, d'amour divin en nous, dans notre âme, dans le purgatoire. Et donc, on regarde ça. C'était beau les cédules qu'on avait fait. Parce que l'Église, elle sait absolument tout. Elle enseigne tout. Les apôtres des derniers temps enseigneront les fins dernières. Après la mort, il y a le purgatoire, ou la damnation éternelle, ou le ciel. Tout le reste, c'est du pipeau. C'est du pipi pour les chats. Oui, oui. Quoi ?
Il faut aller chercher Joseph.
Ah.
Moi, personnellement,
oui.
Du boulot après.
Oui, oui. Pourquoi il est quelle heure, là ?
Il est 10h, c'est à 10h40 qu'il arrive.
Ah.
Je ne sais pas si Claude.
Eh ben, c'est... pourquoi tu veux y aller ?
Non. Non.
Ben écoute, dis-lui qu'il fasse du stop, il est où, Agia ?
Ouais, non, mais pas, il va. Il compte, je sais pas, j'avais parlé que tu irais.
Tu vas chercher, mais ce soir, à 19h.
Non, à 10h40, c'est-à-dire qu'on va y aller maintenant, puis le récupérer à Gien.
Ah, mais c'est quand même.
Là, maintenant, ouais, je te donnerai, je vais donner son numéro de téléphone.
J'y vais, moi,
ouais, super, très bien. Je vais te donner son téléphone. Comme ça.
Merci Claude.
Oh, non, je suis serviteur, donc serviteur du diable.
Oh, non. Serviteur de tes frères.
Non. Je dis, même devant vous, je dis une bêtise. Je dis que des bêtises.
Mais non. C'est pas ça, Claude. Celui qui fait miséricorde.
Miséricorde, oui.
Celui qui fait miséricorde.
La miséricorde, c'est la chose la plus importante.
Comble tout. Comble. Celui qui fait miséricorde, comble tout. Exercice, c'est merveilleux. Et s'unir à elle, s'engloutir dans leurs âmes, dire je demande pardon, je pardonne, tout, je demande pardon pour tout, je reçois le pardon de tout, je dis acte de contrition de tout, je prends le fruit des sacrements d'aujourd'hui, je les fais épanouir dans l'âme, toutes les âmes, je peux vider le purgatoire, vous savez, si je fais un acte de charité, surnaturellement parfait, saint Thomas d'Aquin qui le dit, je peux vider tout le purgatoire. Dans un seul acte de charité surnaturellement parfait, en communion à l'intérieur de chacune de leurs âmes, je peux vider tout le purgatoire. Mais je ne peux pas vider le purgatoire, je peux faire un acte de charité si je ne sais pas ce qu'elles vivent, ni comment elles le vivent. Il faut quand même avoir un minimum de compassion, de miséricorde. Hein. Donc si tu dis non, moi, je préfère regarder ce qui se passe dans une NDE, tu vois, tu te barres. Tu pars derrière les galaxies, puis après tu reviens, tu te dis, mais je croyais que j'étais mort. Mais non, tu n'étais pas mort. Ah, je suis ressuscité, tu n'es pas ressuscité du tout. Tu as pris un trip d'acide, le démon t'a mis un trip d'acide à l'intérieur de la tête, c'est tout. Tu n'as pas la moindre connexion avec ce qui se passe pendant à la mort. Pas la moindre. Les NDE. Ça n'a rien à voir avec la mort. Strictement rien. C'est un détournement. Un détournement d'attention. Ouais. Donc si vous voulez prêcher la mort avec l'Antichrist, c'est pas compliqué. Il suffit de parler de ça. Ça passionne les gens qui sont dans les poudres d'Asmodée, ils sont enchantés. Ça leur convient très bien. La mort, c'est pas ça. On faisait les marches comme ça pour demander pardon pour Sikoussi, mes chemins. C'était en Bretagne. Et on marchait pour demander pardon. Voilà, on était quelques-uns. Et puis on a appris qu'il y avait une petite Canadienne du Canada qui était par là. Oh, on lui a dit. On lui a fait dire, vous pouvez pas venir à notre maison le soir, là, à notre site. Vous pouvez pas venir. Alors elle est venue. Et on lui a dit, mais est-ce que vous pouvez pas nous dire ce qui se passe dans ce coup-ci, mes chemins? Parce que elle avait un cerveau sapientiel évident, quoi. Donc, son esprit était là et elle donnait la doctrine de l'Église. Mais comme ça coulait, quoi. C'était un vrai figuier. Un vrai fiquier.
Ce serait un scène, avec son accent.
Alors elle fait venir. Vous ne pourriez pas nous parler de l'anima, ce qui se passe au moment du début, là, des 10 premiers jours. Ah, alors, c'était merveilleux. C'était extraordinaire. Elle était là, c'est la première fois qu'elle s'entendait parler de Jésus, ou l'Esprit Saint parlait comme ça, de tout ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à un moment donné, elle nous a expliqué, elle nous a témoigné. On lui a donné un scapulaire de Pellefoissin. Elle fait partie des 2000. prenez une aube. Prenez Guy, prenez une aube. Prenez une aube, oui, prenez une aube. Si, prenez une aube, je vous assure. Là, on va vous donner une aube. Si. Dans l'évangile, il y en a un qui prenait pas l'aube, ça lui a... Non, non, c'est surtout pas celle-là, c'est celle d'un enfant. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Voilà. Un peu mieux. Mon Dieu. Alors, elle nous a expliqué un jour, à propos de la mort. Moi, Jésus l'a pris, l'a prise. Il y en a plusieurs qui m'ont expliqué ça, mais elle nous a dit comme ça, j'ai trouvé ça très beau. Jésus m'a prise comme ça. Nathanaël, c'est tout. C'est 3-5 fois par jour qu'elle arrive ça. Sophie, c'est pareil. Ils sont des centaines, des milliers. Mettez-vous là, Guy. Alors Jésus, un peu comme il prenait Anne-Catherine Aymeric aussi. Et vous avez des descriptions merveilleuses. Et donc, elle fait l'oraison, et puis toc, ça y est. Dans l'oraison, cinquième demeure, paf, ça fait comme un clapet. Clap. C'est comme si vous étiez mort. Et en fait, c'est toute une partie de Jésus qui vous prend et il vous amène. Il vous amène où il veut. Dans un temps passé. Au moment du déluge. Pour s'adresser aux personnes qui vont mourir sous le déluge. Pour leur donner un rayon de lumière, pour qu'ils demandent pardon. Et ils demandent pardon. Au moment de mourir sous les eaux du déluge, à cause de ces visitations de l'Église des derniers temps. L'Église des derniers temps doit visiter toutes les âmes de la terre, traverser les temps. Nous avons une responsabilité universelle de salut, de rédemption, de guérison et de salut, et de glorification éternelle. Alors, Jésus l'apprend, il dit voilà, il marchait devant moi, des chemins, et on allait comme ça, c'était au-dessus de la terre, c'était quelquefois dans les lumières, quoi. Et puis moi je le suivais, j'étais content, je ne savais pas ce qui se passait. Et alors je passais avec son accent canadien. Et puis à un moment c'était du brouillard, coupé au couteau, puis après. C'était noir, c'était gris, c'était noir, c'était ténébreux, une nuit totale. Et Jésus, lumière, quand même, marchait devant elle. Alors, je suivais Jésus. Il suit moi, marche sur mes pas, t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est important ce que je fais pour eux. Et puis, il pénétrait. Et puis, à un moment donné, il dit, maintenant, je m'arrête. Ah, il dit, maintenant, c'est toi qui passes devant moi. Et tu avances. Et moi, je suis derrière toi. Il dit, parce que là, je rentre dans des mondes, le monde des âmes qui sont dans la nuit, qui ont préféré la nuit à la lumière, donc ils ont peur de la lumière, ils ont peur de moi, ils ont peur de la lumière. Mais comme toi, tu es toute huileuse, toute dégoulinante d'amour, puis tu es une femme, et puis c'est vraiment pour eux. Donc tu passes devant. Ah, maman, je ne peux pas passer devant. Si, avance. Et alors j'avançais, Jésus était derrière moi, et petit à petit, au milieu de l'obscurité, il y a des mains qui me touchaient pour vérifier, quoi. Comme pour vérifier, je leur disais, mais c'est de l'amour quand, qui vient vers vous. Alors, ces mains s'accrochaient du coup à moi. Et du coup, j'avançais et elles me suivaient. Et comme elles me suivaient, petit à petit, elles ont eu de moins en moins peur de la lumière de Jésus qui était derrière moi. Leur jugement particulier, voyez, avait duré plus de 600 ans. Après la mort, ce jugement particulier. Et l'amour, donc, ils avaient moins peur. Alors, Jésus, je trouve ça beau, passe devant moi, parce que moi, ils ont trop peur, ils ne viendront pas vers moi. À toi, oui, ils te toucheront. Ils n'auront pas peur, ils auront moins peur. C'est ça, hein, les fois dernières, expliquer ce que c'est que le jugement particulier. Quand l'âme est totalement séparée du corps, il y a un jugement. Et on sait exactement comment se réalise ce jugement. C'est mystique, évidemment. C'est l'âme séparée. Une fois qu'elle est totalement séparée, il n'y a plus un seul lien avec le génome, avec le corps primordial de notre oui originel dans la vie et de l'existence. Là, ah oui, bien sûr. C'est l'Église de la Terre seule qui a cause méritoire pour arracher, pour enlever cette peur aux âmes, pour qu'elles rentrent dans la vie purgative. Dans l'amour à l'intérieur de la lumière, de la lumière, de la lumière de Jésus. Et petit à petit, Jésus, par homéopathiquement, va mettre une petite goutte d'amour. Et ça va devenir la voie illuminative. Puis après, ce sera des océans d'amour, ce sera la vie unitive. Et on sait exactement quels sont les émois, quels sont les mouvements intérieurs de l'âme séparée du corps. Les paroles qui sont dites, les paroles qui doivent se dire. Et quand le voile se déchire, la lumière de gloire les envahit. Ils sont face à face avec le Père comme le Verbe de Dieu et l'épouse est face à l'époux. Et dans l'embrasement angélique, sans limite et sans fin tout entier, dans toutes les hiérarchies. Et c'est pas le parvis. Hein. Je connais un Père qui s'appelle le Père Monjacal, que je connais bien. Parce que je l'ai aidé pendant des années, enfin j'ai essayé. Pauvrement, à ma manière, à moi, n'est-ce pas? Voilà, il est tombé, il est mort, soi-disant. Hein, il y a 3 ans, c'est ça? 4 ans, il est mort. Et puis donc, Jésus l'a emporté au ciel. Voilà, il explique, il a écrit un bouquin. Il est monté au ciel. Même des prêtres de cette envergure-là ne savent pas faire la différence entre la mort et la vie. Bon, je veux bien croire que comme on dit que Vishka a été emporté au ciel, comme ça, il n'a pas été emporté au ciel, il s'est emporté à la rigueur dans une petite portion du parvis, qui est une espèce de... Il y a une espèce de sommet du purgatoire, si vous voulez. Peut-être, où les saints circulent quand même librement, même si il y a l'équivalent de la peine de dame, puisqu'on ne pénètre pas la vision béatifique. Mais le parvis, ce n'est pas le ciel. C'est terrible. Il y a des prêtres qui confondent, qui ne savent pas la différence entre le paradis, d'ailleurs, le ciel du parvis, et le ciel de la vision béatifique, ils ne savent pas. Et le ciel aussi, et le ciel, bien sûr, le quatrième ciel. Saint Paul a été emporté au quatrième ciel. Il ne faut jamais l'oublier. Et il y a une doctrine de l'Église. Elle est parfaite. Mais non, on va fouiller dans des trucs mystérico-dingo. Christique. Et comme ça, on détourne l'attention. Vous voyez, quelqu'un qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, EKR, elle a fait son voyage astral comme ça. Elle a connu un petit peu le monde de la mort, si je puis dire. Elle s'est fait aider par Patrick Bonneau, très bien. Elle est partie. Bon, je ne sais pas s'il a utilisé du LSD, mais bon. En tout cas, elle est rentrée dans la boule de lumière au-dessus. Elle a fait sa régression métapsychique. Elle est partie en, dans les très grandes profondeurs là-bas de l'astral, du cosmique, de l'au-delà du cosmique, tout ce que tu veux, bref. Puis elle est revenue. Et elle a expliqué comment il faut aider les mourants. Et c'est les règles d'Elisabeth Kubler-Ross qui sont appliquées dans tous les hôpitaux du monde pour les soins palliatifs. Tous! Pour les préparer à la mort. Alors tous les hôpitaux du monde, tous les agonisants sont préparés à la mort avec la doctrine de l'antéchrist à l'état pur. C'est-à-dire pour les mettre dans un état second qui les prépare à partir en métapsychique. Dans les puissances intermédiaires, sur les fréquences, sans angoisse. Et échapper au jugement particulier dans la lumière, la compassion et la réalisation.
Saloperie!
Qui est l'évêque qui a condamné ça comme étant diabolique? Où est-il? Je veux le voir. C'est pour ça que je prends Saint-Jean, moi, comme mon évêque. Parce que lui, il va t'expliquer ce que c'est. Il a vu l'Immaculée Conception passer de la dormition à l'Assomption. Il l'a vu de l'intérieur. Et en elle, il a vu la mort du juste, la résurrection du juste. Il s'est englouti pendant 60 ans à l'intérieur de son cœur maternel, glorieux. Il a spiré avec lui la substance incréée de la première personne de la Très Sainte Trinité pour brûler le cœur de Marie, pour qu'il puisse passer eucharistiquement de la dormition à l'Assomption, il en a été l'instrument sacerdotal, pontifical, dans le sacerdoce victimal d'amour et éternel d'amour, qui était le sien en plénitude. Eh oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il parle dans l'Apocalypse de la death, de la mort. Et vous voyez, quand il va y avoir l'avertissement, toutes ces choses-là vont être dites ouvertement. Pourquoi y aurait-il d'obstacle à ce que le monde a droit, les hommes, les enfants de Dieu, ont droit à la vérité enseignée par l'Église quand même? Quand on dit enseignée par l'Église, enseignée par la doctrine venue du ciel, la vérité vous rendra libre. Et la Jérusalem spirituelle, pendant 19 ans, sera libre de pénétrer, de s'engloutir dans tous ces effets d'amour et de lumière, dans l'incarnation du corps spirituel venu d'en haut, de manière invincible, incorruptible, immaculée. Si je veux, moi, qui demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Alors, c'est bien. Fini les rigolos. C'est sympa. Mais ça veut pas dire, il va y avoir... Je me rappelle là, de quelqu'un que je connais bien, qui faisait des... qui expliquait toutes ces choses-là comme ça, à des gens de Marie-Reine, justement. Et dans l'association Marie-Reine Immaculée de Melun, vous savez, là-bas. La Vierge est apparue comme Reine Immaculée du ciel et de la terre avec ses 555 anges glorieux qui transforment sa robe en lys parfumée descendant comme ça dans le lys ouvert de Saint-Joseph. Rencontre prodigieuse, esponsale, royale. Et puis le Père, et là-bas il y avait des Pères merveilleux que j'aime beaucoup. Ils faisaient des blagues. Ils aimaient faire des blagues. Et puis... puis la Sainte Vierge, enfin la Vierge, on m'a dit ça. J'ai ça sous réserve, hein, sous toute réserve. La Sainte Vierge a dit ça à quelqu'un, la petite paysanne en fait. Elle a dit à Sainte Vierge, elle est venue à cette conférence, à cet enseignement. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai ri. La Sainte Vierge a dit, mais qu'est-ce que j'ai ri. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai entendu ça. Je dis, tiens, la Sainte Vierge qui rit. Parce que c'est drôle. Hein. Quand c'est drôle. Le rire n'est pas exclu. Hein. La joie, l'allégresse, le rire. Ah, pas du tout. Que la Sainte Vierge. Que le Saint Joseph, Sainte Vierge. Mais rire, il y a quelque chose de trop bien, quoi. De trop drôle, de trop. Au ciel, c'est pas ah oh, bon, il y a Dieu et puis ah oh. La vision islamique, hein. Il y a un Dieu unique et puis ah oh. Éternellement, c'est pas drôle. Hein. Mais ce tournoyant, ce tourbillon, ce tourment d'amour, cette création toujours nouvelle, une création toujours nouvelle à l'intérieur de Dieu, en fonction de toute la multiplicité des matières, parce que qui dit matière, dit possibilité d'amour toujours nouveau, de création toujours nouvelle, d'amour et de lumière. Dans le ciel de la résurrection, oui, nous avons tous un talent, et tous, il sera donné ce talent à tous. Jésus nous a accordé la résurrection de la chair. Prie bien sûr pour que ce ne soit pas pour la réprobation éternelle. Moi, je veux pas, moi, que Jésus me dise, bon, écoute, tu es trop gros, 147 kilos, va-t'en. Non, je n'ai pas envie de ça, moi. Moi, je veux pas. Notre vie sur la terre, c'est uniquement pour le ciel. Ça dure quoi, notre vie sur la terre? Ma tante est morte la semaine dernière. Elle est pleine de vie. Elle est morte. Elle ne pourrait pas le savoir. Celui-ci, il meurt. Celui-là, il meurt. Celui-là, il meurt. Mais ce qui est terrible, vous voyez, c'est que quand on meurt, on se retrouve comme ça. À côté, c'est vrai. On se retrouve à côté. On se retrouve au milieu du monde dans lequel on était. On se retrouve à côté de notre corps, on constate la mort. La mort vient pas d'un seul coup, quoi qu'on dise, hein. À cause des cellules staminales embryonnaires qui sont en nous, hein. À cause du oui originel de la mémoire d'Aïe. La mort dure longtemps. La séparation de l'âme et du corps dure. Lorsqu'on n'est pas en état de grâce, lorsqu'on n'est pas en état de grâce en plénitude, ça peut durer 4-5 jours. Pour ceux qui sont en état de grâce en plénitude, l'âme se sépare avant qu'il y ait la mort. Est emporté dans la vision béatifique avant. Pour un chrétien normal, la mort, c'est l'âme que moi j'ai vue ça de mes yeux. Est emportée. C'est ce qu'on promet, hein, ce que Jésus a promis pour les oraisons de Sainte Brigitte. Ceux qui disent les oraisons de Sainte Brigitte. Ouais, je les ai vus, moi, ils sont partis. Le visage en lumière, soulevé comme ça, emporté, puis le corps reste pas emporté, l'âme porte emportée, pacifique, voilà. Là, ça y est, le corps se repose. On peut l'enterrer tout de suite, celui-là, pas de problème. Mais les autres, surtout pas les enterrer, hein. Surtout pas les mettre au four crématoire. Hein. L'âme est encore là. Est à côté. Au moment de l'enterrement, vous avez le cercueil qui est là, ça, Donc le prêtre, il est là, à l'autel, vous avez le cercueil qui est là. Et bien l'âme, elle est à droite du cercueil, là. Vous voyez, vous avez l'autel, le cercueil, là. L'âme est à droite, là. Et elle est là. Et elle est là, elle voit tout. Hein. Elle voit les lumières, elle voit les prix. Elle voit ceux qui prient pour elle. Alors, très très bien, elle voit ce qui est la lumière qui sort d'eux, qui les atteint, qui les rayonne. Elle voit que tous ceux qui, soi-disant, les aimaient, pas un seul qui prie pour elle. Pas un seul. Pendant toute la cérémonie. Moi je le dis souvent quand je fais l'enterrement. Elle est là, elle vous voit. Et vous êtes là pour dire, ah, elle a toujours été merveilleuse, elle faisait quand même beaucoup de bien, cette personne. Était remarquable, elle a fait des peintures admirables. Hein? Pour Panégyrique, pour Simone Veil, pour Philippe Seguin, mais où ils sont maintenant? Philippe Seguin est dans la réprobation éternelle, il l'a dit. Il est éternellement en enfer, Philippe Seguin. Simone Veil, c'est différent. In extremis, elle a demandé pardon. In extremis, elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon pendant ces heures qui ont duré 3, 4, 5 jours. Elle a répudié tous ceux qui l'honoraient. Elle les a délestés. Elle a demandé pardon. Elle a demandé le baptême catholique. Eh oui. Elle a demandé le baptême catholique. Elle n'est pas en enfer. Vous savez, la destinée des âmes, il faut savoir ce qui se passe après la mort. Ce que c'est que la mort. Comment ça se passe. Comment on est. Il y a un jugement. Il y a une convocation d'abord. Une constatation, puis une convocation. Puis un jugement. Et alors il y a la beauté, la splendeur, la lumière. Dieu ne fait pas vraiment peur. Il est beau, il se présente de manière splendide, très très belle, très forte, très attrayante, magnifique, magnanime, ouvrant grand les bras, quoi. Mais si dans mon cœur, Dieu n'est pas vivant, je le vois, je passe à côté et je m'en vais. Pourquoi? Parce que l'âme humaine est une âme de liberté substantielle. Notre liberté est substantiellement égale à la liberté de Dieu. Notre vie contemplative, notre esprit n'est pas à l'égal de celui de Dieu. Notre volonté d'amour, notre cœur, capacité d'aimer n'est pas à l'égal de celui de Dieu. Mais notre liberté, oui. C'est là où on est indivisiblement, possiblement en union dans l'un avec Dieu le Père. On est suprêmement libre. Et ça, ça joue terriblement, ça joue beaucoup au moment de la mort, du jugement particulier. Et le tout du jugement particulier, vous voyez, c'est qu'il faut apprendre. Et si quelqu'un vient de décéder de notre famille, là, et qu'il est là. Moi, j'ai vu des familles chrétiennes. Pendant les 3 jours, 4 jours avant l'enterrement, le corps est là. Aucune prière. Mais enfin, chez nous, à la maison, quand papa est mort, quand n'importe qui est mort, je veux dire, c'est nuit et jour, non-stop, chapelle ardente, rosaire sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Messe auprès du cercueil, là, dans la maison. Enfin, voyons, quand même. Non, il est mort, ben voilà. Il est où? Ah, monté dans la chambre là-haut. Tu ouvres la porte. Ah, ben voilà, il est là. Bon, voilà. Bon, alors on descend en bas, on prend un café. Voilà, ça c'est les disciples d'Elisabeth Kubler-Ross et de Patrick Monroe. C'est terrible. Les apôtres des derniers temps enseigneront les fins dernières. Les enfants de la terre ont droit à la vérité. le monde entier. Hein. C'est pas normal, quoi. Les fins dernières, c'est ce qui se passe à la fin du monde, à la fin des temps et à la parousie. Les fins dernières, c'est ce qui se passe lorsque l'âme est en train de se séparer du corps, si elle n'est pas prête. Si elle est prête, ne vous inquiétez pas. Elle part. Et elle part dans la vision béatifique avant de mourir. Et c'est ça, son départ qui provoque sa mort. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui sont avec moi ne connaîtront jamais la mort. Mais pour les réprouver, oui, tu peux temporiser. Tu peux temporiser même des années et des années. Tu peux temporiser, il y a des moyens pour ça. Et c'est ce que le Satan a enseigné avec les soins palliatifs pour se préparer à partir et à temporiser dans des endroits qui ne sont pas trop désagréables pendant des années. Je comprends que la salette, la Vierge, dit malheur aux habitants de la terre. Jésus le dit dans Miséricorde, le Saint-Père aussi dans son encyclique sur la miséricorde. Je suis venu pour un triple jugement quand même. Il y a un jugement. Voilà. Bon, je vous demande pardon si je vous ai choqué, si je vous ai blessé. Je vous demande pardon, c'est pas ce que je voulais pas vous presser. Non, je voulais pas.
Je peux vous poser une question. Pourquoi est-ce que les prêtres n'enseignent pas tout ça? Parce qu'au fond...
Je vais vous dire, tous les prêtres que j'ai vus enseignent ça. Tous. On ne doit pas rencontrer les mêmes prêtres, peut-être, je ne sais pas. Mais tous les prêtres enseignent ça. C'est même la seule chose qu'enseignent les prêtres. D'accord?
Quand on va dans une église, on n'entend pas ce genre de choses.
Et parce que si là, ces sermons durent plus que 7 minutes... Tous les prêtres, ils voient les gens qui disent tout. Alors, ils ont juste le temps de répéter vaguement, de targumiser l'évangile, et puis hop, on passe à la messe, et puis allez, repartez dans votre...
Il n'y a jamais un prêtre qui a parlé de l'enfer. Moi, c'est uniquement...
Je n'ai jamais entendu parler de ça.
En 50 ans, je n'ai jamais entendu un prêtre parler de l'enfer.
Ni même de la mort.
Mais la mort, la mort, si, bien mort. Sûr, quand vous allez en... Mais si, moi j'ai toujours... Oui. Écoutez, moi je suis prêtre, j'en parle, ça va?
Oui. Au contraire, mais la mort reçoit vraiment quelque chose, mais on reçoit quelque chose de très très différent, je veux dire, voilà.
Ne vous inquiétez pas.
C'est pas de l'inquiétude.
On reçoit le serment qu'on a mérité de recevoir.
On reçoit
le serment qu'on a mérité de recevoir, frère. N'oubliez jamais ça. Si je désire recevoir un serment sur l'enfer, je le recevrai. Si j'en ai aucun désir, je ne le recevrai pas. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait 15 ans, elle connaissait par cœur le livre du Père Armagon sur les fins dernières. Elle ne connaissait que deux livres par cœur. L'imitation de Jésus-Christ à 16 ans et les fins dernières du Père Armand Jean. Est-ce qu'un baptisé ne devrait pas connaître par cœur le livre du Père Armand Jean sur les fins dernières qui résume de manière très descriptive, très magnifique, très théologale, très théologique, infaillible ce qui s'appelle les fins dernières? Non, je préfère avoir le bouquin de... Voilà. C'est la liste des bouquins que j'ai lus. Hein. J'ai lu le dernier bouquin de Sarkozy. J'ai lu le bouquin de Source Noire. Voilà. C'était sublime le dernier. Ah ouais. Ah, bien entendu. Voilà. Ah, ça, j'ai lu. J'ai lu des bouquins. Mais j'ai pas lu un seul des 53 livres du Père Nathan. Pas un seul. Il l'a en travers de la gorge, quand même. Ah, on écrit d'autres bouquins, ça, oui. Les fins dernières, par Armagent, c'est à disposition de tout le monde. La somme de saint Thomas d'Aquin, c'est à la disposition. Saint Thomas d'Aquin a fait la somme de saint Thomas pour les débutants. Alors je prends le traité de la mort, le traité de l'enfer, le traité du purgatoire, le traité du jugement. Voilà, je peux très bien. Maman, j'ai des cousins germains, et avant de se marier, ils se disent je veux lire toute la somme de saint Thomas d'Aquin, parce que c'est pour les débutants. Ah non, je lis Le Monde, moi. Charlie Hebdo, Le Monde. Je lis le journal télévisé, hein, forcément. Et puis de temps en temps, je prends un bouquin. Maria Valtorta. Moi, j'écris aucun bouquin, je préfère jardiner. Ah bon, toi, tu n'écris qu'un bouquin. Mais alors, à ce moment-là, tu vas à la messe et tu dis, Seigneur, montre-moi ce que c'est que les fins dernières. Je veux l'entendre, ça. Et je l'entends. Ça vient jusqu'à moi, vous inquiétez pas. Tous les prêtres enseignent sur les fins dernières. Tous. S'ils le peuvent, mais quand ils ont affaire à une assemblée du monde ancien, c'est impossible. Parce qu'ils pensent qu'au poulet qui est en train de frire dans la maison. Un jour, mon évêque me dit, je vous convoque, là, oui. J'arrive, il me dit, vous célébrez des messes qui sont beaucoup trop longues, mon père. J'ai des plaintes. Je dis, vous avez des plaintes ? Il me montre. Il savait ? Il dit, Monseigneur, je veux dire. Ma messe ne dure jamais plus d'une heure. Enfin, précis. Dans les paroisses, hein, parce que c'est vrai. Ma messe ne dure jamais plus d'une heure. J'ai concélébré avec vous 5 messes, toutes les 5. Elles ont duré entre 1h30 et 2h15. Donc vous faites 2 fois pire que moi. Porte plainte. Parce que la messe a duré 1 heure. Par écrit. Là, j'ai un oncle qui est prêtre, l'abbé Bertrand. Hein. Un jour, il dit, parle des fins dernières comme ça, un jour. Une fois. Je crois que c'est la seule fois de l'année qu'il a parlé des fins dernières. Comme ça, tranquille, vraiment pas méchant. Et en disant quand même, ceux qui ont fait des péchés, ils se retrouvent avec leurs péchés devant le jugement, tout de même. C'est un crime quand même, par exemple, l'avortement. Alors, il explique ça. Gentiment, il est gentil, vous savez, l'abbé Bertrand. Qu'est-ce qu'il est gentil. Une crème. 4 plaintes. Il nous parle de l'enfer. Il n'a pas prononcé le mot de l'enfer une seule fois. Il nous parle de terrorisme, de culpabilise. L'évêque a convoqué l'abbé Bertrand. Il a convoqué. Il dit, c'est insupportable. Ah bon? Je vous ordonne, je vous mets entre les mains du vicaire épiscopal, vicaire général, et je vous ordonne de faire de vous faire traiter. Vous êtes un malade, obsessionnel, pour que vous vous faire traiter par un psychiatre. Il était, par obéissance, il était voir le psychiatre. Chut, picouse, aldol, chut, je vous dis pas, Prozac. Un mois après, c'était un légume. Il mangeait la poussière du tapis. Ça a duré 3 ans. Et vous croyez que les autres prêtres, ils ne le savent pas, ça? C'est quoi, les cathos? C'est quoi? Cette espèce de bonne femme, c'est Jézabel? Alors, ils disent qu'il faut... faux. Tu peux pas donner à quelqu'un des perles pour ça. Puisque ce sont des porcs qui sont là. Détruits. Alors mon pauvre oncle, ben... petit à petit on est venu à son secours. On lui a dit mais t'es pas obligé d'obéir à ce salopard, d'un franc-maçon. Ah bon, ah bon. On lui a fait lire ce qu'il y avait dans le petit papier, vous savez, des médicaments, c'est marqué. Des dommages collatéraux, quoi. Envie de se suicider, envie de se tuer, envie de ce machin. C'est marqué, c'est même marqué sur le papier. Maintenant ça va, il est revenu à la normale. Il prêche partout, il est libre maintenant. Il tient plus compte, c'est bien, c'est content, mais enfin quand même, qu'est-ce que c'est cette histoire? Les prêtres, vous savez, ils continuent malgré ça. Malgré les catholiques, ils continuent à célébrer la messe. Je m'excuse, mais ça... Malgré les catholiques, ils continuent à célébrer la messe. C'est héroïque d'être prêtre. Héroïque. Avec la communauté des Jézabel qui sont devant eux. C'est épouvantable. Jézabel, je pense que ce sont les catholiques les plus purs du monde, hein, attention. Avec esprit de contrôle, hein, esprit de mort, de toutes les œuvres surnaturelles de Dieu, esprit de destruction, esprit de cause diminuante continuelle. Et bien, ils continuent de dire la messe, ils continuent. C'est pas mal. Non, moi j'en sais rien. Vous comprenez, je suis un prêtre différent des autres parce que je suis tout seul. Évidemment, j'ai moins de problèmes. Hein. On va me dire voilà une petite picouse s'il vous plaît. Tchut. Légumisation. Tchut. Tchut. Non, ça moi on me la fera pas moi. Donc on va quand même célébrer la messe, je suis désolé. vraiment je me suis laissé aller là, ça je reconnais. Je me suis laissé aller, on va célébrer la messe.
Merci.
Mais c'est célébré pour un enfant qui s'appelle Emmanuel. On va dire je crois en Dieu pour lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. C'est ainsi à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.